Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des maternelles, podcast produit par France Télévisions. Le podcast des maternelles. Aujourd'hui, on va parler du syndrome du nid vide. Alors c'est quoi le syndrome du nid vide? Et bien c'est simple, vous avez un enfant, vous avez deux enfants, vous avez trois enfants, et puis ben, les années passent, ils deviennent ados, puis ben, ils deviennent adultes, et puis ben, un jour, ils prennent leur envol comme un petit oisillon, ils quittent le nid familial, et ben, du jour au lendemain, les parents, et ben, ils se retrouvent seuls. Eh ben, ils se retrouvent seuls entre eux. Alors c'est génial, on se retrouve en amoureux, etc. Eh ben, sauf que bien sûr, ça laisse un vide. Des enfants qui partent et une maison, un appartement qui se retrouve un petit peu vide. Effectivement, voilà donc ce qu'on appelle vulgairement le syndrome du nid vide dont on parle dans cette émission avec ce témoignage de Sandrine. Sandrine, la maman de Malo, un jeune garçon de 21 ans. Et puis, nous aurons après les analyses, les conseils de Béatrice Copper-Royer qui est psychologue. C'est parti.
Alors on le sait, notre job de parent, c'est d'accompagner nos enfants au mieux pour qu'ils puissent un jour voler de leurs propres ailes. C'est vrai, on le dit tout le temps, on élève nos enfants pour leur donner des ailes. Mais quand vient l'heure du grand départ de la maison, évidemment, certains parents développent ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Vous avez 47 ans, bienvenue au club. Vous êtes romancière et photographe et vous êtes maman de Malo qui a 21 ans. Vous l'avez élevé une semaine sur deux parce que vous étiez séparée du papa, donc garde alternée. Puis quand Malo a quitté le cocon familial, ça vous a fait sombrer dans une énorme déprime qu'on peut tout à fait anticiper. Vous étiez bien jeune pour la vivre. Quand je vois que moi, mes enfants ont 5 et 7 ans, je les ai fait tard, mais c'est vrai que vous étiez bien jeune pour vivre cette séparation. Heureusement, vous avez surmonté cette épreuve et vous êtes là avec plein de solutions. Mais d'abord, on voudrait que vous nous racontiez un petit peu votre histoire. Vous êtes séparée du papa de Malo quand il avait 2 ans. Quel genre de relation vous aviez avec Malo quand il était petit ?
Alors, on avait une relation à la fois indépendante, parce que d'abord, il était en garde alternée, donc une semaine sur deux, on était ensemble, une semaine sur deux, il n'était pas avec moi. Il avait l'habitude donc d'une certaine autonomie par rapport à moi. Elle était aussi indépendante parce que je suis photographe et je travaille pour la presse, donc j'étais parfois en reportage et il avait l'habitude de rester avec sa nounou. Et en même temps, c'était une relation assez fusionnelle parce que maman solo, donc, et enfant unique, donc souvent à la maison, et en tant que romancière, donc j'écris chez moi, et donc lorsqu'il rentre de l'école, du collège, j'étais à la maison, et on se voyait beaucoup, et on partageait beaucoup de moments tous les deux, que ce soit des films, du cinéma, de la télé, sur des choix qu'on faisait tous les deux, ou des voyages, puisque je l'ai aussi beaucoup emmené avec moi en reportage au SAMU social de Dakar, voilà, donc c'était à la fois indépendant et à la fois fusionnel.
Mmh. Avec en tout cas, grande complicité, quoi.
Oui.
Et beaucoup de partage.
Oui, et ce souci de lui transmettre des valeurs qui sont essentielles pour moi, qui étaient vraiment l'ouverture aux autres, la curiosité, la tolérance, et qui passait par justement tous ces moments qu'on vivait ensemble.
Bon, à l'adolescence, ça c'est un petit peu compliqué, c'est assez classique. Ça a commencé quand ?
Quatrième, troisième à peu près, conflit au départ scolaire. Mon fils n'était pas trop scolaire et j'avais du mal à comprendre. Je trouvais ça injuste. En fait, il y avait quelque chose qui m'échappait parce qu'il vivait dans une grande ville, il avait un environnement culturel. J'avais l'impression de lui donner tout ce que je n'avais pas eu, moi. Et lui, ce n'était pas son truc. Et ça s'est envenimé au moment de la première, donc lycée, où à ce moment-là, il a décidé de partir en pension. Premier déchirement, première séparation.
Qu'est-ce qu'il vous a dit d'ailleurs pour justifier cette décision ?
Eh bien, en fait, il avait fait une première à Paris qui ne se passait pas très bien. Il avait besoin d'air. C'est d'ailleurs le titre du roman que j'ai écrit sur le syndrome du nid vide, donc ce qu'il faut d'air pour voler. Et le livre raconte ce moment où il s'en va, où on rentre de vacances. C'est le premier chapitre du livre. On rentre de vacances et on rentre de l'aéroport à minuit. Et au lieu de rentrer à la maison, il me dit « Écoute, en fait, je pars demain, donc ce soir, ben, je ne vais pas dormir à la maison et je vais aller dormir chez mon copain » avec qui on était partis en vacances. Et en fait, je n'étais pas d'accord et j'ai commencé à paniquer en lui disant « Mais disons-nous au revoir correctement demain matin et puis il faut que tu prennes tes affaires, que tu vides ta chambre. » Et en fait, ça a été la première coupure de cordon puisqu'il m'a dit « Écoute, maman, tu sais, j'ai 17 ans et demi, donc que tu le veuilles ou non, je vais être majeure et je fais ce que je veux, donc ce soir, je ne dors pas chez toi. »
Ouais, c'est terrible. Dans votre livre, on sent la détresse de la mère qui s'était imaginée faire de cette dernière soirée un moment
exactement
très intense, très symbolique, etc. Mmh. Et qui... est totalement démunie avec l'indifférence presque. Bon, on sait bien que ce n'est pas ce qui se joue, mais bon, en tout cas, on est avec vous, quoi, dès le premier chapitre. Pendant ces quelques mois loin de Paris, donc quand il était en pension, etc., est-ce qu'il revenait les week-ends, vous voyez ?
Alors, il revenait un week-end sur deux, mais à chaque fois, en fait, j'avais beaucoup d'attentes. Donc, je remplissais le frigo, je préparais des repas, j'imaginais qu'on allait aller voir tel film au cinéma, tel spectacle. Et puis, en fait, c'était un coup de vent, puisqu'il rentrait, il sortait, il voyait ses copains. Et le dimanche soir arrivé, où finalement, on n'avait passé que peu de temps ensemble, le frigo était presque aussi plein qu'à son arrivée, avec que des choses que je ne mangeais pas forcément, des pizzas à quatre fromages, des trucs que j'achetais spécialement pour lui. Et donc, c'était toujours un moment difficile, jusqu'à ce que, rapidement, il espace sa venue. Il ne vienne plus qu'une fois par mois, parce que les week-ends, bah, il avait envie de les passer avec ses copains. Et qui est, au bout de 6 mois, un an, une autre étape dans notre séparation, c'était à Noël. On sait que les moments de Noël sont toujours propices à l'exacerbation, à l'exacerbement des relations dans la famille. Et alors que je suis en train de conduire pour le ramener à l'aéroport après avoir passé un week-end en famille, dans ma famille, avec ses grands-parents dans les Pyrénées, il me dit, écoute, en fait, je ne te supporte plus, je ne supporte pas ta voix, je ne supporte pas ta conduite, j'en ai marre, tu m'étouffes. Et je ne quitte pas mon volant des mains, je lui dis « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» J'essaie de regarder droit devant, de ne pas pleurer. Et il me dit « En fait, je voudrais que tu ne m'appelles plus, qu'on ne se voit plus, j'ai besoin d'air. » Et là, je sais qu'il ne dit pas ça contre moi. En fait, je me raisonne, parce que j'ai beaucoup lu sur ce sujet. Je me dis « Ok, c'est pas contre moi, c'est pour lui. » Je garde en main le volant et je lui dis « Je t'aime, mon chéri. » « Ok, si c'est ce dont tu as besoin, on va faire ça. » Mais je suis complètement effondrée.
Alors, on est avec vous dans le bouquin aussi sur cette scène. Alors évidemment, après, il y a eu des longs mois sans voir votre fils. Ça a dû être terrible. Comment est-ce que vous avez vécu cette absence ?
Mal. En fait, au départ, j'allais beaucoup dans sa chambre, je regardais ses livres, ses BD, je regardais sa fenêtre, en fait. Je me disais, alors c'était là, c'était ce qu'il regardait quand on se disputait, quand il s'enfermait dans sa chambre, il se mettait sur son lit et il avait cette vue-là. Et puis, je me mets à regarder des albums photos, beaucoup. J'écris. Et évidemment, pour les écrivains, les mots sont des petites madeleines, ça nous permet de revenir dans le passé, de revivre des émotions. Et en regardant ces photos, j'essaie de comprendre comment on en est arrivé à cette grande séparation, en me disant que finalement, cette grande séparation, elle était forcément déjà là par le produit de plein de petites séparations que les parents vivent dès le plus jeune âge, ça veut dire au moment où de l'accouchement, évidemment, il y a une séparation de corps, et puis après, quand il commence à parler, où il dit non, l'enfant s'exprime, décide d'aller où il veut quand il se met à marcher, et non plus là où on le pose. Voilà, et donc je reparcours ces moments-là, j'écris des SMS que je n'envoie jamais, des notes, des mails, et c'est comme ça que le projet du livre, peu à peu,
mais ça a été un bon exutoire.
Voilà.
Alors, ce qu'on comprend aussi dans votre histoire, c'est que comme vous l'avez fait très tôt, aujourd'hui vous avez 47 ans et il est déjà parti, vous étiez un peu seule aussi dans votre entourage, on ne vous comprenait pas tellement.
Exactement.
Le fait que vous soyez en boucle sur lui, ça a dû être difficile, ça.
C'était
aussi.
C'était très difficile. Au départ d'ailleurs, pendant ces 2 mois où on ne se parle pas, mes copines me demandent comment va mon fils et je dis « il va bien ». En fait, j'ai une forme de honte. Je pense que la société nous culpabilise quand même pas mal, les parents et puis les mamans. J'avais l'impression de ne pas être une bonne mère puisque je n'avais pas réussi à garder un lien avec mon fils et à assurer cette transition de l'âge adolescent à l'âge adulte, même si l'âge adulte, il avait quand même que 17 ans et demi. Et donc, je ne dis rien à mes copines. Et puis, quand je commence à en parler, en fait, je me dispute avec pas mal de gens dans mon entourage qui ne comprennent pas que je sois en boucle parce que j'ai été maman avant, voilà, assez jeune, avant elle, et qu'elle ne se rende pas compte, et puis qu'elle me répète, mais enfin, on fait des enfants pour les voir partir, on le sait. Oui, oui, on le sait.
Oui, c'est une chose de le savoir et c'est une chose de le vivre. Au bout de 2 mois sans nouvelles, vous avez enfin reçu un coup de fil.
Oui, c'est un soir, je suis avec une copine à la maison, on est en train de boire un petit apéro, et le téléphone sonne, je vois s'afficher le nom de mon fils, et là, en fait, je me mets presque à pleurer avant de répondre. Je me calme et je me dis, bon, allez, je réponds. Et là, il s'excuse et il me dit tout de suite, écoute, maman, je me rends compte que j'ai été dure, j'ai envie qu'on se reparle. Voilà, il s'excuse. Et moi, j'essaie de pas trop chevroter de la voix. Je lui dis que je l'aime, que je suis heureuse d'avoir de ses nouvelles. Et tout de suite, je m'empêche de le culpabiliser ou de revenir sur ce qui s'est passé. Je fais un grand silence sur notre discussion et je lui demande comment il va, je lui donne des nouvelles et je vis le présent de ces retrouvailles.
Ouais. Comment vous avez fait pour réapprivoiser votre vie de femme ? Ça a duré longtemps, ce syndrome du nid vide, cette déprime ?
Oui, pendant une année, c'est très violent. Pendant une année, je pleure, je me sens vide. En fait, le syndrome du nid vide, qu'est-ce que c'est ? C'est un sentiment d'inutilité, de vieillesse, de solitude qui étreint un parent sur trois, en gros, et 80% de mamans, qui, au moment où l'enfant s'en va, se demande alors qui elles sont, ce qu'elles vont devenir. Voilà. Ouais. Si elles ne sont plus maman au quotidien, si elles n'ont plus à remplir le frigo, à s'inquiéter lorsqu'il n'est pas rentré d'une soirée le soir ou au petit matin, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir devenir et être ?
Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez justement à ces mères qui ressentent ça ?
Je pense qu'il faut... en fait, dans ni vide, il y a vide, donc il faut remplir le vide. Moi, je l'ai rempli tout de suite en... Enfin, pas tout de suite, au bout d'un certain temps, en prenant des cours. J'ai pris des cours d'anglais, de psychologie, de scénario, de vidéo. Je me suis remise à voyager beaucoup. Voilà, j'ai rempli tout ça. J'ai écrit, encore une fois. À un moment, je pensais ne pas être sujette au syndrome du nid vide. J'étais une femme plutôt indépendante, libre. J'avais l'impression que je ne m'étais pas oubliée en tant que femme. Je m'étais réalisée. J'ai écrit plusieurs romans, j'ai fait des livres de photos. Je suis devenue journaliste, ce qui était un peu mon rêve. Donc, je pensais que ça ne me concernait pas. Sauf que les larmes continuant de couler, le soir, le dimanche, le week-end, j'ai consulté un psy. Et à ce moment-là, j'ai compris non seulement que je souffrais d'un syndrome du nid vide, que c'était une crise identitaire, et que pour arriver à dépasser ça, il fallait que je prenne conscience que, en fait, ce moment est dur parce qu'il ravive toutes les séparations qu'on a vécues avec les autres hommes de notre vie. Donc ça commence par la séparation avec un enfant, mais évidemment, la séparation du père. Si on est maman solo, c'est qu'à un moment, il y a eu aussi... une rupture.
Oui, une déflagration aussi.
Voilà. Et puis, ça ravive les autres séparations avec les hommes de notre vie. Moi, ça a ravivé la séparation avec mon propre père, qui m'avait abandonnée à ma naissance. Donc, ça, voilà.
Alors là, vous vous dites, mais comment j'anticipe justement ce syndrome du nid vide ? Parce que je suis comme Yasmine, il perd une dent et déjà, je pleure pendant 4 jours. Eh bien, on a évidemment quelqu'un pour nous aider. Bonjour Béatrice Copper-Royer, merci d'être
Agathe.
Avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute, auteur de nombreux ouvrages, dont « Le jour où les enfants s'en vont », qui tête. Oui, c'est ça. Oh là là, ou le lapsus, Agathe, qui traite justement de ce fameux syndrome. Oui, moi aussi, ça ne va pas tellement bien, il faut que je vous parle. Merci de nous éclairer sur ce sujet. Alors, on l'a vu dans le témoignage de Sandrine, ça a été très, très brutal. Elle parle de ce que ça dit de sa propre histoire, l'abandon de son père, etc. Qu'est-ce qui se joue pour ces mamans qui vivent si mal l'enfant qui s'en va ?
Alors, Sandrine, elle est un peu l'exemple d'une mère qui a élevé essentiellement seule son enfant, un enfant unique, et donc il y a un investissement affectif absolument massif sur cet enfant. Et quand il part, évidemment, le sentiment de vide est abyssal et peut créer chez certaines mères des émotions extrêmement douloureuses. Qui, avec un sentiment d'inutilité, de qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps qui s'est libéré.
Tout à coup, en fait, on se rend compte que son enfant remplissait tellement le quotidien qu'on se dit, mais finalement, dans quelle étagère et pourquoi je suis sur Terre, à quoi je sers quoi.
Exactement. Je pense que ce qui domine, c'est le sentiment d'inutilité. En fait, tous les repères sautent et la vie qui était rythmée sur celle de l'enfant, il rentre, il sort, il faut le nourrir, on remplit le frigidaire, etc., etc. Tout ça disparaît.
Il faut trouver
autre chose.
Enfin, il nous manque aussi, c'est un peu ça, quoi. Voilà, je veux dire, bon, bref, j'ai une question. Vous avez compris, là, il me parle. Une question en vidéo de Valérie est concernée par cette problématique.
Bonjour, je m'appelle Valérie et j'ai eu un syndrome du nid vide lors du départ de la maison de mon fils. Et il est difficile pour moi de lui cacher cette souffrance et je me demandais quel impact cela avait sur lui et comment je pouvais faire pour le rassurer. Merci de votre réponse.
Alors elle se rend compte que voilà, éventuellement ça peut avoir des conséquences.
C'est une très bonne question parce qu'effectivement, pour l'enfant qui sent que son départ va plonger son parent dans une détresse énorme, c'est évidemment extrêmement culpabilisant. Hein. Et donc, ça peut lui donner le sentiment qu'il est coupable et que c'est un sale gamin qui est absolument pas reconnaissant de tout ce qu'on a fait pour lui. Donc, c'est vrai que c'est assez lourd et que le meilleur service qu'on puisse rendre à ses enfants, c'est de justement leur montrer qu'on est content qu'il se soit éloigné, qu'on a le sentiment du travail accompli, que c'est tout à fait légitime et voilà. Et là, je pense qu'il faut qu'elle essaye, son prénom c'est
Valérie.
Valérie, elle essaye d'aller en parler à quelqu'un pour éviter de lui balancer sur le dos tout ce chagrin qui probablement est légitime et qui la renvoie peut-être à d'autres séparations qui ont été douloureuses.
Iman nous dit « Ma fille de 18 ans est partie il y a 4 mois faire ses études à 600 km de la maison. Je l'appelle tous les soirs, au moins une fois par jour. Est-ce mauvais pour elle ?» Tout dépend ce qu'on se dit. Non,
voilà, exactement. C'est pas forcément.
Docteur Muller.
C'est pas forcément mauvais.
On peut prendre des nouvelles. Il faut pas non plus aller dans l'excès inverse, à couper les ponts.
Non, non, absolument pas. Surtout que 18 ans, c'est quand même très jeune. Et que si ça rassure et l'une et l'autre, il y a vraiment pas de quoi s'en priver. Je pense que, en revanche, il faut peut-être éviter que ça soit trop ritualisé. Parce que si le jour où elle va pas répondre parce qu'elle est allée prendre un pot avec des copains,
oui, ça va être le stress absolu.
Stress terrible. Donc, c'est juste un tout petit peu le bémol.
Mes enfants sont partis de la maison. Au moment où j'ai pris ma retraite, je ne comprends pas pourquoi ça me fait aussi mal, alors que c'est naturel dans la vie d'un parent. Comment vous l'expliquez ?
Parce que c'est une coïncidence difficile. Évidemment, ça l'amène sur le chemin de la vieillesse. Ce sont deux pages qui se tournent, la page de l'activité professionnelle et la page de la parentalité au quotidien. Et donc, c'est difficile. On voit que les mères, notamment qui ont un syndrome du nid vide assez fort, parfois ça coïncide justement avec la ménopause, la mise à la retraite, etc. Donc c'est une accumulation de deuil en réalité qui fait que c'est douloureux.
Vous dites les mères et les pères.
Mais parce que franchement,
combien de fois vous avez dit cette phrase dans l'émission?
Franchement,
j'ai vu moins de pères qui ressentaient ce sentiment de vide intense et qui les affectait beaucoup. J'en ai vu quelques-uns, mais c'était toujours en lien avec une histoire de séparation douloureuse dans leur enfance.
D'accord. Hein. Sinon, on est content, quoi.
Les pères, ils ont souvent le sentiment que voilà, ils ont fait du bon boulot, voilà. C'est terminé, on
passe
à autre chose.
La vie.
Alors, Marjorie vous demande comment expliquer que certains parents ressentent très fortement ce syndrome du nid vide et d'autres pas du tout, parce que elle, ses collègues, par exemple, la comprennent pas.
Eh bien, parce que personne n'a la même histoire, qu'il y a souvent une résonance avec.
C'est forcément lié à quelque chose.
C'est souvent lié à une séparation compliquée dans l'histoire personnelle, et ça peut être aussi lié à un investissement beaucoup plus important sur les enfants. C'est-à-dire que il y a certaines mères qui leur univers affectif est concentré vraiment sur leurs enfants, et donc il y a peu de relations amicale, y a peu d'intérêt au-delà des enfants. Mmh. Et donc, évidemment, quand les enfants ne sont plus là, le vide est plus grand.
Bah, c'est bizarre, parce que moi, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout mon cas, parce que j'ai une vie sociale.
Vous voulez un petit thé un ou deux gâteaux donc, bretons?
C'est bizarre. Non, mais on va en parler,
Béatrice. Ouais.
Allez-y, Benjamin.
Oh, OK.
Ça y est, la consultation est terminée.
Alors, il faut parler du couple dans tout ça. Parce que Karine dit, depuis que ma fille est partie de la maison, il y a quelques mois, mon couple souffre beaucoup. Nous avons beaucoup de mal à supporter ce vide. Est-ce fréquent ?
Oui, c'est quand même assez fréquent. Et on voit plus de séparations maintenant, après le départ des enfants. Parce que les enfants sont un formidable écran entre, dans les couples, il y a un mode de fonctionnement qui tourne autour des enfants et qui finalement rend plus possible le lien conjugal, mais la communication entre les conjoints, elle peut s'appauvrir considérablement. Et donc c'est vrai que quand les enfants sont plus là, il y a plus cette espèce de ciment comme ça qui maintient le lien. Et
il faut retrouver autre chose. On n'a rien à se raconter aussi le soir.
Ben voilà, on s'est éloigné et il faut se retrouver. Mmh. Et pour se retrouver, parfois il faut se faire aider. Et parfois il y a des constats qui sont plus tristes et on ne sait pas.
Mmh. Ouais.
Ça donne le moral. Ou alors on dîne en regardant la télé.
Ou alors on dîne en se regardant.
Quelle bonne idée, Benjamin. Ou on va au resto et on ne se parle pas comme tous ces couples-là.
Avec leur téléphone. Ouais,
avec leur téléphone.
Mmh. Ouais. C'est ça. Mmh. Oh, c'est bien, non?
C'est dur. J'hésite entre deux questions. Du coup, je vais poser celle de Rachel qui dit « Je vivais très bien la séparation » parce que ça change un peu. Passe, mm-hmm. Voilà. « Je vais très bien la séparation avec mon fils de 25 ans, mais avec la crise du Covid, il a dû revenir à la maison et la cohabitation est difficile. Comment faire pour retrouver une relation apaisée ?» C'est Rachel qui vous demande ça.
Oui, et ben ça, c'est une bonne question parce que avec la crise... Oui, bravo. Parce qu'avec la crise, effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui sont repartis chez leurs parents. Et je pense qu'une fois qu'on est parti, c'est très compliqué de se remettre...
Ouais, en fait,
c'est...
ils sont partis, on s'y est fait. Ouais. Et puis là, ils reviennent. Oh
ouais, c'est compliqué parce qu'effectivement, la cohabitation, elle peut plus être comme avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un garçon de 25 ans de se comporter comme s'il avait 15 ans. Mmh. Donc, il faut que chacun retrouve une distance acceptable. Et parfois, il y a des heures, et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut mettre peut-être des espèces de... en discuter, un bon dialogue autour de qui fait quoi et quelles sont les règles.
Dans la maison.
Oui, dans la maison. Parce que sinon, ça devient vite très, très tendu et on n'a qu'une envie, c'est qu'il redégage.
Il faut peut-être qu'elle le dise, peut-être qu'elle le dise ça, non ? Que justement, que chacun avait repris ses marques comme il voulait, etc. Ouais. Et que là, qu'elle le dise, non ?
Oui, il faut qu'elle lui dise. Je pense qu'il faut mettre les choses à plat et accepter le constat que ce n'est pas qu'on s'aime moins, mais qu'on s'est habitué à vivre séparément et que donc cette recohabitation imposée, parce qu'elle est rarement choisie, demande d'y réfléchir.
Depuis que mes enfants sont partis, j'ai beaucoup de mal à réinvestir ma vie de femme, surtout les week-ends. Que me conseillez-vous pour combattre ce vide ? C'est Marie qui vous...
Eh ben, trouver des occupations, relancer des copines.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire dans le vide, il y a le côté vide.
Voilà, donc il faut remplir le vide. Il faut remplir le vide, s'inscrire dans des cours, je vous dis, rappeler des copines qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Dire que ce temps libéré, ça peut être un gain, qu'on peut gagner quelque chose. C'est pas qu'une perte. Et je pense que ce qu'il faut vraiment rappeler à ces parents qui se désolent du départ de leurs enfants, c'est que au fond, leurs enfants, d'abord, ils n'ont pas été forcément tout le temps si agréables que ça.
Mais ça, on oublie ça. Comme on oublie les galères des nuits au début, etc. Je pense qu'on oublie qu'ils ont été chiants.
Je crois qu'on est programmé comme ça. C'est trop bizarre ça.
Et donc, se dire que ce temps libéré, on peut en faire quelque chose de positif, de joyeux, qui nous fait du bien à nous en tant que personne. Et voilà, donc il faut un petit peu chercher, mais il y a plein de possibilités pour...
Benjamin, c'est tout trouvé, c'est boire.
L'alcool dès le matin. Non, on parlait des voyages tout à l'heure. Alors, si on peut, la période n'est pas vraiment
évident,
au voyage.
Ne serait-ce qu'aller au cinéma.
La période n'est pas au voyage.
Non.
La période n'est pas au voyage.
Non, mais la forêt de Meudon, par exemple, vous allez vous promener un week-end.
Ah, vous ferez peut-être des belles rencontres. Oh, Serge Bonafou, par exemple.
Notre réalisateur qui se promène nu, forêt de Meudon.
On enchaîne. Donc, avec un autre point de vue, celui d'Antoine. Lui, il a 20 ans et il vous dit « Je vais quitter l'an prochain ma mère, qui est très fusionnelle. Comment lui annoncer mon départ ? Je sais qu'elle va être dévastée et j'ai très peur de sa réaction. » Lui, il se soucie de sa mère. Donc déjà, Antoine, toi et moi, on est comme ça. Mais du coup, voilà.
Il se soucie de sa mère et il faut qu'il se rassure parce que elle lui a donné la possibilité de s'envoler et c'est très, très bien. Et donc, elle a fait du bon boulot. Maintenant, il faut qu'il qu'ils se sentent absolument pas coupables et qu'ils se disent que c'est pas parce qu'on s'éloigne qu'on s'aime moins et qu'on rompt. C'est pas une rupture, c'est une autre phase de la vie qui va être différente. Mais il faut qu'ils la rassurent sur le fait qu'ils l'aiment toujours et que ça n'a rien à voir avec du désamour. C'est juste une étape de la vie absolument naturelle et elle va s'y faire.
Moi, j'ai hâte qu'ils partent, vous le dire.
Aussi, ouais, mais je crois que vous dites ça maintenant. Moi aussi, des fois, j'ai envie qu'ils partent. Mais je peux vous dire
non,
que
parce
comment...
que je pense que je dirais tiens, j'ai bien fait mon boulot. Ouais. Ça y est, ils sont indépendants. Ils sont. Moi, par exemple, mon fils est en train de se détacher de moi. Je le sens. 8 ans. Il y a un truc. Il est plus de calagéga. Enfin, plus autant. Et je me dis ah, c'est bien. Il est.
Mais moi, je pense aussi.
Vous êtes équilibré. Je ne le suis pas.
Je pense que c'est parce qu'on est fait. C'est par rapport à notre propre éducation.
Mais moi, je pense qu'il faut dire aussi aux parents qui sont dans cette situation-là que c'est très agréable d'avoir des rapports avec des enfants qui deviennent adultes, parce qu'ils vous apportent énormément.
Oui.
Et on n'a pas cette responsabilité, ce souci de ce qui va leur arriver, etc. Même si ça reste un tout petit peu en toile de fond très longtemps, mais quand même, on gagne aussi dans ces échanges d'enfants adultes à parents. Ce sont des échanges qui sont très gratifiants. Mmh. Les enfants adultes, ils vous apportent beaucoup de leurs intérêts, de ce qu'ils font.
Puis de leur jeunesse aussi,
de leur jeunesse, etc. Donc c'est très gratifiant. Donc on n'est pas du tout que dans la perte.
Est-ce
donc
qu'on peut parler de l'arrivée de la petite copine ou du petit copain la
Ah non, mais
fois.
On n'est pas obligé là. Parce que si on peut se rentrer là-dedans,
on va perdre Yasmine là, attention. Hein.
Parce que ça ne se passe pas toujours bien.
Non. Ça ne se passe pas toujours bien, mais là, pour le coup, les parents doivent être extrêmement prudents dans leurs commentaires et dans leurs jugements.
Il faut ouvrir son cœur.
parce que c'est un haut risque de conflit et les parents sont rarement gagnants.
Oui,
ça, on le sait, de toute façon.
Voilà, donc prudence. Pas de jugement à l'emporte-pièce.
Tu es avec ta conne, ta maman.
C'est génial.
Bah oui, il n'y a pas un pardon à lapsus aussi. Alors là, quelqu'un a une question ?
Vous allez vous regarder. Non, je suis en état, moi.
Christophe qui dit « J'ai perdu mon papa il y a maintenant 1 an et depuis que mon fils a quitté le nid il y a quelques mois, j'ai des peurs paniques sur ce qui peut lui arriver. Comment y remédier ? Est-ce lié ? Vous disiez tout à l'heure, on s'angoisse un peu moins quand ils deviennent adultes, mais ça reste sous-jacent.
Oui, alors là, il y a un deuil. Il y a un deuil qui a fragilisé ce père.
Et plus la période actuelle.
La période actuelle. Donc, si vous voulez, on peut imaginer qu'il a un niveau d'anxiété qui est assez fort, qui a été favorisé par ce deuil, et donc qui se fait du souci, pour son fils. Je suis désolée.
Un petit Covid.
Oh oui, c'est pas grave.
C'est au micro.
Vous avez vu, j'ai gardé le masque. Ne vous inquiétez pas.
Et que donc, c'était quoi la question ?
Je ne sais plus. Du coup, je suis en train de me dire qu'il va falloir que je fasse un PCR.
Franchement, ils sont bien entre mes chroniqueurs et mes invités.
Il y a une histoire de peur panique.
Non, l'anxiété générale.
Non, mais
surtout après un deuil.
Voilà. Oui, voilà. Mais c'est ça.
Je pense qu'effectivement, c'est une accumulation, si vous voulez, de stress. Le stress du deuil, plus l'ambiance, plus le départ, ça potentialise, si vous voulez, un niveau d'anxiété qui crée l'angoisse et la panique.
Merci beaucoup à Béatrice Copper-Roy et merci à Sandrine d'être venu nous parler du syndrome du nid vide. Alors voilà, si ça se trouve, en écoutant ce témoignage, vous vous disiez « Oh, moi ça va, j'ai encore le temps ». Eh oui, vous avez encore le temps, même si, vous savez ce qui se dit, on ne voit pas le temps passer, donc c'est pas plus mal de commencer à y réfléchir dès maintenant. Voilà, j'ai angoissé tout le monde, j'en suis bien désolé. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast des maternelles. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Ciao tout le monde, salut.